BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons sur l'île de Groix, en Bretagne, chez Groix et Nature. L'entreprise est spécialisée dans les conserves et les produits de la mer et elle est confrontée à des défis existentiels autour de l'eau et de la pêche. Notre reporter Philippe Indolbeau est sur place et notre experte sera en plateau avec ses solutions. Puis on parlera de sport aujourd'hui dans BFM Climat. Comment adapter le secteur au changement climatique? À quoi ressemblera la pratique du sport dans les prochaines décennies? On en parlera avec deux dirigeants qui préparent l'avenir. Yann Roubert du Loup, le club de rugby de Lyon, et Magali Chevalier du club des sports de Chamonix. Et on terminera l'émission, comme toujours, avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché, bien à lui, sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc sur l'île de Groix, en Bretagne, dans le Morbihan, chez Groix et Nature. Une très belle PME artisanale dans les produits de la mer, mais qui est confronté à des défis existentiels avec le changement climatique. Philippe Indolbeau est sur place avec les équipes de Groix et Nature.
Aujourd'hui, direction l'île de Groix, chez Groix et Nature, une entreprise spécialisée dans les conserves fines et les produits de la mer. Alors avec ses recettes locales et artisanales, cette PME bretonne incarne un savoir-faire unique, mais elle fait aussi face à des défis majeurs pour conjuguer tradition et durabilité. Entre la gestion de l'eau, le recyclage des emballages et puis une adaptation à une pêche en mutation, voilà quelques-uns des défis à relever pour continuer à grandir de manière responsable. On va justement voir ça tout de suite avec leurs équipes.
Groix et Nature est une entreprise insulaire, donc évidemment sur une île il faut qu'on fasse attention et qu'on soit vigilant aux ressources que nous utilisons. Dans les ressources, l'eau est un vrai enjeu pour la conserverie. Depuis 3 ans, nous avons réussi à économiser 30% notre utilisation globale d'eau et on souhaite aujourd'hui aller plus loin et on estime que l'on peut encore aller chercher 30% d'économie de cette énergie qui est importante. On a eu des vraies alertes parce qu'il y a 3 ans, on a quand même eu un climat qui était très impacté avec des fortes chaleurs. Et Groix a été un des premiers territoires en France à être menacé par la consommation.
Bonjour Marine Guader.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Climat et de nous avoir accueillis chez vous, sur l'île de Groix, dans votre île. Vous êtes la directrice générale donc, de Groix et Nature. Vous êtes ici pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis. Et c'est Violaine Lepouzet de Carbone 4 qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Merci d'être là sur le plateau de BFM Climat. On rentre dans le vif du sujet, on a entendu Marianne, elle a une question très concrète. Elle veut économiser plus d'eau, elle a réussi à économiser déjà 30%, elle veut économiser 30% supplémentaire. Comment est-ce qu'elle peut faire?
Alors c'est clair que l'eau c'est un gros sujet quand on parle de changement climatique, parce qu'on sait que le cycle de l'eau va être perturbé, on sait qu'il va y avoir potentiellement plus d'eau en hiver, moins d'eau en été, à peu près partout en France. Et donc des épisodes de sécheresse en été, en fait Groix l'a déjà connu, donc parfois des problèmes d'approvisionnement en eau, et parfois des problèmes de qualité d'eau. Donc ça c'était l'année dernière, il y a eu quelques jours d'interruption de l'alimentation en eau potable, parce que l'eau n'était plus potable. Parce que la température était trop élevée, ça induit de la production de molécules cancérigènes dans le réseau d'eau potable. D'accord. Donc il y a un sujet, ça c'est clair.
Ouais.
Donc première action, évidemment, on va chercher à optimiser ces consommations en eau. C'est ce que vous avez commencé à faire, et déjà 30%, c'est déjà bien. Et puis il y a d'autres axes peut-être à explorer. Essayer de voir ce qu'on peut faire avec la saisonnalité de la production. Parce qu'on sait qu'en été, il va y avoir un problème d'eau. Et ça, ça va pas changer. Ça va pas disparaître. Mm-hmm. Donc essayer de voir si on peut pas réduire ou changer les types de produits qui sont produits pendant l'été pour réduire un petit peu la consommation. Alors, c'est pas si évident que ça à faire. Mais c'est un axe à regarder.
Ouais.
Et le troisième axe, ça c'est peut-être ce qui me semble le plus intéressant, c'est de regarder l'eau recyclée. Est-ce qu'on peut pas utiliser une eau recyclée? Ça c'est quelque chose qui est poussé par le gouvernement depuis les grands épisodes de sécheresse qu'on a connus. Et c'est autorisé dans les industries agroalimentaires depuis juillet 2024. Donc c'est tout récent, avant c'était interdit. Et maintenant, alors évidemment, il y a toute une batterie de mesures de précaution, mais on peut réutiliser des eaux recyclées. Alors ça coûte cher, quand même.
Ouais.
Donc un enjeu, c'est peut-être de regarder sur le territoire s'il n'y a pas d'autres acteurs intéressés pour mutualiser l'investissement que cela représente.
Alors, il y a plein de très bons conseils là. Est-ce que vous êtes convaincu? L'eau recyclée et puis peut-être effectivement adapter votre production un peu plus aux saisons et notamment par rapport à l'été.
Alors, l'eau recyclée, c'est une vraie nouveauté vertueuse pour nous, hein, le fait qu'on puisse recycler cette eau et notamment dans les autoclaves qui permettent de stériliser les produits. C'est un vrai changement dans notre façon de production. Aujourd'hui, encore plus demain, on doit avoir un atelier de production qui soit de plus en plus vert et qui réfléchisse à comment régénérer aussi un petit peu cette eau que l'on utilise. Et évidemment, je pense qu'il y a en tout cas deux points importants, c'est comment le recycler et deuxièmement, comment avoir des entreprises qui collaborent avec nous sur le territoire de Groix pour pouvoir aller vers ce sujet qui est un enjeu majeur au niveau des années à venir.
Alors, il y a la question de l'eau, évidemment, centrale, d'autant plus quand vous êtes une entreprise insulaire. On va retourner sur place, sur votre île avec Philippine, parce que vous êtes aussi confrontée à la question, en tout cas, et on va essayer d'avoir la réponse, la question du réemploi de tous vos pots en verre.
Deuxième défi, recycler leurs pots en verre. Le recyclage actuel est principalement conçu pour les bouteilles et donc organiser une logistique de collecte, de lavage et de transport aux normes, bien sûr, de Groix et Nature. Ben c'est loin d'être évident pour tous ces petits pots.
Chez Groix et Nature, on fait de la conserve et notre emballage principal, c'est le verre. Aujourd'hui, le verre a un réseau de recyclage qui est déjà très développé. Et chez Groix et Nature, on a envie d'aller plus loin. Nous, on a envie de faire de la réutilisation des pots, c'est-à-dire de remettre en place un peu un système de consigne comme on peut avoir sur certaines bouteilles. Et aujourd'hui, on se heurte à la difficulté de trouver en fait des partenaires, des moyens pour pouvoir en fait récupérer ces pots et les nettoyer et pouvoir les réutiliser en toute sécurité. Donc effectivement, on a deux pots principaux qui sont assez petits parce qu'on met 100 grammes dedans, qui sont assez différents. Un qui est assez lisse où il n'y a pas d'aspérité et un autre sur lequel on a en fait un petit rebord effectivement où la matière peut rester collée. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que faire aujourd'hui du réemploi de verre, est-ce que c'est vraiment vertueux ? Parce qu'effectivement, il faut pouvoir récupérer le verre, donc la consommation du carburant pour aller chercher les pots en verre, aller les envoyer chez un partenaire pour les laver, l'utilisation de l'eau pour nettoyer ces pots, pouvoir les récupérer. Donc c'est aujourd'hui vraiment une vraie question qu'on se pose et auquel on aimerait pouvoir aboutir et vraiment avoir une conclusion, se dire oui, il faut qu'on y aille parce que c'est important, parce que ça nous permet de gagner en énergie, d'être vraiment vertueux sur cette problématique-là, ou est-ce qu'on se dit bah non, aujourd'hui, le recyclage du verre est suffisant, ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Alors, très intéressant et très sincère, hein, très transparent. Oui ou non, Violaine Le Pouzet, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut y aller, consacrer de l'énergie et du temps pour mettre en place le réemploi des pots en verre, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée?
Alors, c'est pas évident.
C'est pour ça qu'on vous a posé la question.
Pas évident de répondre. Alors, le gouvernement soutient la relance de la filière du verre consigné. Il va y avoir une expérimentation dans le Grand Ouest, justement, pour relancer la filière de production de pots standards, parce que ça passe aussi par des pots standards. Et puis, la création d'espaces pour déposer les bocaux. Cela dit, effectivement, c'est plutôt des bocaux standards. Alors, il faudrait étudier, voir si les bocaux que vous utilisez vont correspondre aux standards qui vont être poussés. Parce que l'impact écologique, effectivement, c'est positif à partir de 4 réutilisations, d'après l'ADEME. D'accord. Donc, il faut réutiliser un pot au moins 4 fois pour que ce soit positif. Bon. Ça veut dire que les clients, il va falloir qu'ils redéposent plusieurs fois, qu'ils jouent le jeu. Est-ce que c'est adapté à votre clientèle, à vos produits? Ça, c'est une question aussi à étudier, je pense.
Ouais. Alors, très intéressant que vous parliez des clients, et ça fait lien avec le dernier thème. On va retourner chez vous, Marine Guyader, une dernière fois sur l'île. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on s'est dit, il y a aussi la question de la pêche elle-même, et justement des nouvelles habitudes de consommation.
Allez, troisième défi, celui de s'adapter aux ressources halieutiques, autrement dit à la pêche elle-même. Groix et Nature ne travaillent qu'avec la pêche locale, derrière moi, ou de proximité, et avec le changement climatique, les pratiques de la pêche aussi. Certaines espèces de poissons deviennent de plus en plus rares, alors que d'autres existent, bien sûr, mais sont encore très peu proposées à la vente. Il s'agit donc là de changer les habitudes des consommateurs pour les adapter à la pêche d'aujourd'hui et surtout de demain.
Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est très fort, à savoir demain, quelle ressource halieutique sera en nombre assez fort pour pouvoir être travaillée. Donc, dans notre process de création de produits, c'est un point que l'on prend vraiment en considération, on échange, on se challenge pour regarder comment évoluent aussi les différents poissons, les différentes matières que l'on peut utiliser. Mais il y a un point, c'est de dire, quand on s'appelle Groix et Nature, Groix, c'est une île, donc on a des attentes vis-à-vis des produits halieutiques. On a développé également une gamme en lien plus avec le côté nature à travers une gamme végétale sur laquelle on se source auprès des agriculteurs insulaires. Mais néanmoins, on a cette petite alerte qui est réelle de savoir quelle pêche demain nous pourrons utiliser et surtout quels poissons seront assez disponibles pour pouvoir être travaillés sans impacter les ressources des océans.
Alors, Violaine, là aussi, on est dans une question d'adaptation fondamentale. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Marianne?
Alors, les chercheurs suivent quand même ces dynamiques, hein, les dynamiques de population des poissons. Donc, ils arrivent à avoir un petit peu de recul et à voir les tendances. Parce que chaque poisson va être dépendant des conditions climatiques dans lesquelles il évolue. Donc, on sait que certaines populations de poissons vont migrer vers les eaux plus froides, vers le nord. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que disait l'Ifremer. Ce qu'il nous dit, c'est que, par exemple, le hareng va diminuer, le cabillaud va diminuer dans l'Atlantique et la Manche. Merlu et maquereau vont augmenter, la Saint-Jacques va augmenter. Donc, voilà, en fait, effectivement, hein, les populations vont varier. Il va falloir faire face à des nouveaux poissons, ou en tout cas, une saisonnalité différente. Alors, une des forces de Gros et Nature, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez un outil de production assez flexible.
Tout à fait.
Ce qui vous donne une robustesse, en fait, très importante, ce que n'ont pas tous les sites industriels. Donc ça, c'est une force, il faut la cultiver, en fait, cette force-là, pour anticiper.
Vous avez l'outil de production pour basculer, mais il faut que vos clients vous suivent. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'ils sont prêts? On sait à quel point c'est difficile de faire changer les habitudes de consommation.
Oui, mais aujourd'hui, un des enjeux dans notre consommation et dans l'explication aussi de notre communication auprès des clients, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on peut ou on ne peut pas, à l'inverse, travailler tel ou tel poisson, tel ou tel légume, parce qu'il faut respecter ses valeurs, il faut respecter son territoire. Mmh. Et en tout cas, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés chez Gros et Nature, pour aujourd'hui et encore plus pour le futur.
Mais vous sentez que les consommateurs sont réceptifs, qu'ils comprennent et qu'ils vont vous suivre?
Il faut l'expliquer. C'est-à-dire que pourquoi on choisit telle ou telle matière première, pourquoi on n'autorise pas telle matière également dans une recette, là c'est vraiment des enjeux qui sont très forts. Ouais. Parce que des fois c'est savoir dire non à un moment où ça peut être plus simple de dire oui.
Ouais.
Et ça,
c'est souvent ça, BFM Climat, apprendre à dire non.
Exactement, apprendre à dire non pour mieux rebondir pour la planète.
Tout à fait, pour aller dans le bon sens. Merci infiniment à toutes les deux, c'était passionnant.
Merci
Marianne
beaucoup.
Guyader de Gros et Nature et Violaine Lepouzet de Carbone 4. Allez, on a parlé de la mer et de la pêche, on va parler de sport à présent. Comment adapter le secteur du sport au changement climatique? À quoi ressemblera la pratique du sport dans une France à plus 4 degrés? On en parle avec deux dirigeants qui projettent leur sport dans l'avenir. Bonjour Yann Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du club de rugby de Lyon, le Loup. Et vous êtes aussi le vice-président de la Ligue nationale de rugby. Donc vous parlez au nom de la profession. Et avec vous Magali Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la responsable des grands événements du club des sports de Chamonix. Et notamment évidemment le marathon du Mont-Blanc, qu'on connaît bien. Yann Robert, je commence avec vous. Dites-nous concrètement comment est-ce que vous faites pour adapter votre club, le Loup, au changement climatique. Comment vous avez intégré les limites planétaires dans le fonctionnement économique de votre club?
Alors, on les a intégrées un peu comme on peut, sans doute pas assez, parce que notre but, c'est d'être un peu moins imparfait, à défaut d'être vertueux. Par essence, quand on organise des événements, on déplace du monde, on crée évidemment un bilan carbone qui n'est pas forcément toujours bon. Donc, on essaye, dans notre petite mesure, de contribuer. Donc ça, c'est on a commencé par faire notre bilan carbone, on a participé à la Convention des entreprises de climat pour essayer d'écrire notre feuille de route. Et après, on essaye de s'y tenir en mettant des petites touches qui ne changeront pas le monde, qui ne nous rendront pas parfaitement vertueux, mais qui essayent d'aller dans le bon sens.
D'accord. Bon, donc là, ce sont des premiers pas, mais plus concrètement, de quoi parlez-vous ?
Concrètement, du coup, ça change ce bilan de carbone. On l'a pris et du coup, on a choisi les thèmes sur lesquels on pouvait agir. Il y a nos infrastructures, celle-là, le Matmut Stadium de Gerland, il existe depuis 100 ans, on ne pourra pas le changer. Par contre, ce qui a trait à nos déplacements, aux déplacements de nos supporters qui viennent nous voir, à nos achats, ce qui dépend de nous, là, on peut faire. Donc, d'avoir des circuits courts pour les achats, de faciliter les mobilités douces pour nos supporters. Quand on le peut, nous, on ne fait pas toujours parce que parfois, on a aussi des exigences sportives. Quand on va jouer à ou à Bayonne, ben là on prend l'avion malgré tout, mais on favorise le train quand on le peut et quand on en a l'opportunité.
Bon, des premières pistes d'action. Magali Chevalier, même question pour vous, pour vos événements dans votre station Chamonix, et bien évidemment pour le marathon du Mont-Blanc, comment est-ce que vous faites pour intégrer le climat à tout ça?
Ben, comme Yann, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a des actions environnementales et qu'on a fait un bilan carbone également. Et il est ressorti de ce bilan carbone qu'on avait 96% de l'empreinte carbone de l'événement qui était liée au transport des participants pour venir à Chamonix faire le marathon du Mont-Blanc.
À 96% du bilan carbone 96. Du marathon, c'est les transports?
Oui, c'est le transport des participants. D'accord. Pour venir à Chamonix.
Okay.
Et ce chiffre est très élevé par rapport à d'autres événements, ouais, outdoor, parce qu'on a énormément d'actions environnementales en parallèle.
D'accord.
On a supprimé les bouteilles plastiques de l'intégralité des ravitaillements. Mmh. On a bien sûr le tri des déchets, etc. Donc, toutes les autres actions font qu'en fait, la part du transport participant prend le pas sur d'autres thématiques.
Relatif, ouais. D'accord.
Et du coup, on a décidé qu'il fallait absolument qu'on agisse sur ce chiffre qui est faramineux. Mmh. Et on a décidé de réserver 40% des dossards aux gens qui s'engageraient à venir en train ou en bus participer à l'événement.
D'accord. Ah oui. Et donc ça, ils doivent le prouver ?
Absolument.
C'est pour rendre la réservation, quand on a le dossard, on doit prouver que...
En fait, on a une très forte demande pour participer au marathon du Mont-Blanc. Il y a plus de 33 000 personnes qui essayent de s'inscrire pour 10 000 places.
Ouais.
Et du coup, cette forte demande fait qu'on a la chance d'être très sollicité. Et on a décidé de ne pas faire de tirage au sort pour les coureurs qui s'engageraient à venir en train ou en bus. Mmh. Et du coup, ça nous permet de filtrer les inscriptions à ce moment-là et de vérifier les titres de transport quand ils s'inscrivent.
D'accord. Yann Robert, ça vous parle, ça ? Tout à l'heure, vous parlez des mobilités douces, concrètement.
Nous, on aimerait pouvoir faire ça. Nous, un petit peu de la même sorte, on a les gens qui viennent en trottinette, typiquement, ont un code qui fait que les trottinettes sont gratuites pour venir au stade.
D'accord.
Si on a du covoiturage, le parking est gratuit, alors que si on vient seul dans sa voiture, là, il est payant. On adorerait pouvoir offrir le métro à ceux qui viennent en métro et qui laissent leur voiture au garage. Ça, on a besoin de la complicité des autorités, évidemment. C'est pas si simple que ça à mettre en place, mais c'est des choses vers lesquelles on va tendre. Et on a la chance d'avoir bientôt le tram qui va venir au Matmut Stadium de Gerland, qui devrait nous aider à aller dans ce sens.
Ah,
et puis malheureusement, les travaux et les bouchons font une bonne pub pour les faits de venir en transport en commun, en mode reste ceux qui viennent de loin pour nous supporter. Là, évidemment, on a encore besoin de parking et de voitures, donc on n'est pas encore à zéro, évidemment, mais on essaye d'améliorer la photo.
Ouais, c'est plus difficile d'avoir la main là-dessus. Bon, donc pour tous les deux, on voit bien que le transport, c'est un sujet clé. Est-ce que pour aller plus loin, pour décarboner, pour réduire l'empreinte carbone, est-ce qu'il faut, de manière générale dans le sport, peut-être moins d'événements, moins de compétitions, moins de matchs ? C'est toute la réflexion qu'il y a autour de la décroissance volumique. Là, on parle du sport, mais ça vaut pour tous les secteurs. Est-ce que pour vous, c'est le sens de l'histoire ?
Ça le deviendra peut-être, pour des raisons climatiques bien sûr, mais aussi pour des raisons de santé des joueurs chez nous, on a là-dessus, donc c'est des débats qu'on a souvent. Mmh. Après, c'est toujours très difficile de se dire, si on réduit, qu'est-ce qu'on enlève ? Est-ce que c'est la Coupe d'Europe ? Est-ce qu'on joue à moins d'équipes ? Et on a évidemment en pendant le côté social et lien social que doit créer le sport, donc il est évident que on sait qu'on essaye de compenser notre mauvaise empreinte carbone, parce que quand on aura des France-Nouvelle-Zélande, il faudra toujours qu'il y ait une équipe qui traverse le monde, ses supporters pareil, mais on se dit que ça crée quand même d'autres choses à défaut d'être vertueux pour le climat. Donc c'est un débat, et c'est pour ça qu'on peut donner de leçons à personne, parce qu'on vit avec nos paradoxes, évidemment.
Ouais. Magali Chevalier.
Ouais, nous on est effectivement on n'est pas sur une saisonnalité avec plusieurs événements qui se répètent. Nos trois gros événements, c'est le marathon du Mont-Blanc, la Coupe du monde d'escalade et la Coupe du monde de ski Le Candard.
C'est ça, vrai, c'est tous les ans, c'est une fois par an, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, ouais. Oui. Donc après, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on fait le marathon du Mont-Blanc une année sur deux? L'objectif de ces événements, il est pour faire la promotion touristique du territoire. Et on s'est dit, on va utiliser ces événements pour changer le comportement des gens qui vont venir à Chamonix participer à ces événements. On a l'ambition de se dire, si les gens viennent en transport en commun une première fois à Chamonix pour le marathon du Mont-Blanc, peut-être que quand ils reviendront skier ou quand ils reviendront à un autre moment,
d'accord,
ils emprunteront les transports en commun. Merci. Et peut-être que ça peut faire aussi boule de neige, okay, pour d'autres événements à emprunter des mobilités douces.
C'est un peu le même schéma, nous, de la même manière. Ouais. On aimerait bien pouvoir embarquer nos communautés pour qu'elles deviennent un peu plus vertueuses aussi. On n'a pas la chance d'être en montagne comme vous, donc on peut pas faire la promotion en montagne. Par contre, on essaye d'impliquer ces communautés. Donc, typiquement, maintenant, avant, on donnait des drapeaux. Maintenant, on les prête et on les a les rendre.
Ouais.
On a des opérations nettoyage, on nettoie tous le stade ensemble, nos supporters aussi. Donc ça, le fait de les impliquer, ça nous aide un petit peu.
C'est une question que je voulais vous poser, justement. Est-ce que vous pensez que ça infuse vraiment chez les sportifs, chez les supporters? Vous pensez que là, y a un éveil, une prise de conscience climatique, oui, autour des gens que vous rassemblez?
Moi, j'en suis convaincue. Quand on les impacte en leur obligeant un autre mode de transport pour pouvoir participer à l'événement, forcément, ça fait réagir. En positif ou en négatif. Nous, on a vu au moment de l'annonce de ces, de cette mesure qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très favorables.
Ouais.
Mais forcément, ça a un impact, forcément, ça fait réfléchir. Et on espère que sur le long terme, ça ira plus loin.
Et très clairement pour nous, quand on voit la montagne, les montagnards, les alpinistes, les trailers sont évidemment engagés parce que leur milieu est en... Là, j'en viens, donc Dieu sait si ça nous parle et c'est des sources d'inspiration pour nous. Mais bien sûr que nous, à notre niveau, nos sportifs s'impliquent aussi. Et quand on leur fait faire la promotion de la recyclerie sportive, donc la réutilisation du matériel sportif, bien sûr que ça parle et ça engage ceux qui les aiment et qui les suivent à faire de même. Pareil, quand on essaye de tuer la bouteille en plastique en mettant des fontaines, on a évidemment nos joueurs qui viennent en faire la promotion pour essayer d'adopter des comportements un peu plus vertueux et de faire que ça diffuse et que, et que ceux qui nous suivent fassent pareil.
On a eu cette petite bombe cette semaine avec Martin Fourcade qui a annoncé donc renoncer à être le chef de file de l'organisation des Jeux Olympiques de 2030 en expliquant que le projet était un contresens écologique, quelque part, que ça n'avait plus de sens, en tout cas la façon dont les régions le voyaient, d'organiser ce grand événement à la montagne. Est-ce que ça vous fait réfléchir quand même à l'avenir de vos activités ?
C'est évident que les activités hivernales, on se pose des questions avec le réchauffement climatique. Au quotidien, on vit ça à Chamonix, on est confronté, au lieu d'avoir la neige, on a la pluie parce que 1 ou 2 degrés de différence, il pleut au lieu de neiger. Tous les jours, on voit les montagnes avec des chutes de pierre, les glaciers qui fondent, donc c'est sûr que on se pose des questions sur le futur de l'activité des activités sportives hivernales. Maintenant, on essaye avec nos actions que ça change, que les comportements changent. C'est sûr qu'on peut se poser des questions sur les Jeux Olympiques, mais...
Parce qu'au-delà même des JO, le sport à la montagne, beaucoup de gens, de plus en plus, disent maintenant que ça devient un contresens écologique. Vous avez la ville d'Annecy, par exemple, son maire a dit « Moi, j'arrête de financer le biathlon du Grand Bornand parce que c'est complètement contradictoire avec ce qu'on veut faire pour sauver la montagne. »
Oui, alors c'est un peu extrême parce que si on arrête le sport à la montagne, notamment les activités hivernales,
faire d'autres sports, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut pas l'arrêter, mais sans doute l'adapter. Évidemment que quand on finit la Vallée Blanche, la remontée de la mer de glace au Montant Vert, c'est malheureusement un des plus gros symboles du fait que ça se réchauffe et qu'il y a de moins en moins de neige. Par contre, s'adapter sans doute. Nous, peut-être qu'on pourra pas jouer les étés quand il fera trop chaud ou qu'il y aura trop d'intempéries l'hiver. Donc évidemment, je pense qu'il plutôt que d'arrêter, il faut se dire qu'il va falloir adapter et qu'effectivement le ski ne doit pas être le seul sport qu'on pourra faire et en tout cas malheureusement pour le Grand Bornand sans doute pas dans les stations où il n'y aura pas assez de neige à l'avenir.
Bon, le mot de la fin pour vous Magali.
Vous me prenez de court. Écoutez, nous on est très contents d'avoir mis en place cette mesure. On espère que ça va se diffuser à tous les autres organisateurs et puis que les gens continueront à venir à la montagne mais avec les transports en commun.
Bon, enfin, en tout cas, effectivement, c'est un exemple qui marque les esprits. C'est ce quota de dossards, quasiment la moitié des participants. Merci infiniment à tous les deux.
Merci.
Yann Roubert, président du Loup, club de rugby de Lyon, vice-président de la Ligue nationale de rugby, peut-être futur président, on verra quand vous reviendrez, puisque les élections, ça se tient au mois de mars. Et avec vous, Magali Chevalier, merci infiniment, responsable des grands événements du club de sport de Chamonix. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine, votre journal, avec une entreprise suisse dans le secteur des transports dont le cours de bourse a dévissé à cause des catastrophes naturelles.
Oui, Stadler, c'est un peu le Alstom suisse. Ça fait des trams, des trains, des métros. Les problèmes se sont accumulés tout au long de l'année. Ça a commencé l'été dernier. Constellium, son plus gros fournisseur d'aluminium, a été touché par des inondations dans le Valais. 4 mois d'arrêt total de livraison. Le retard sera rattrapé, mais dans un an. L'été prochain. Ensuite, c'est en septembre qu'un barrage a cédé en Autriche. Le site de Stadler a été inondé. Un train tout neuf qui était à l'homologation a été détruit. Perte sèche pour l'entreprise. Et puis, le troisième épisode, ça a été Valence, fin octobre. Le site de Stadler, et c'est intéressant, n'a pas été touché. Il est un peu au nord de Valence. Mais... La catastrophe a coûté 200 000 heures de travail à l'entreprise, des salariés qui n'ont pas pu venir travailler et puis des fournisseurs de l'usine qui ont été touchés. Résultat, la direction financière de l'entreprise a convoqué la presse pour un profit warning en fin d'année. 5% de marge, c'était l'objectif qui devienne 3. Le carnet de commandes est plein en 2025, mais l'usine à Valence va mettre 2 ans complets à retrouver son rythme de production. Les plans B, ils mettent du temps à être mis en place. Résultat, le cours de bourse a décroché de 20% en quelques jours et il n'est pas remonté. La démonstration que dans un monde où les périls se répètent, l'adaptation deviendra un enjeu clé de compétitivité.
Bien évidemment. Allez, on retourne maintenant aux États-Unis à Los Angeles pour voir l'histoire des maisons qui ont résisté aux flammes.
Oui, on en avait parler ici, l'immense majorité des maisons à Los Angeles sont en bois. Ça a donné les images que vous voyez, où des quartiers ont été littéralement rasés par les flammes. Mais en regardant bien, on voit que certaines maisons, vous le voyez là-dessus, ont survécu, sont presque indemnes. Alors comment c'est possible ? Pour comprendre, on peut prendre une maison qui a été construite par un architecte, Greg Chazen, et que vous allez voir à l'image. Elle n'a rien, cette maison. Alors comment c'est possible ? D'abord, le choix des matériaux. Les murs sont dans un bois qui est traité spécialement pour résister aux flammes. Le toit est en métal. Les vitres sont construites spécialement pour protéger les habitants des hautes températures. Ensuite, il y a le design. Cette maison est particulièrement compacte. L'architecte la compare à une maison de Monopoly. Le fait que le toit ne déborde pas de la structure protège contre l'embrasement. Il y a ce qui se passe aussi autour de la maison, une petite cour sans végétaux, un muret en béton qui la protège. Et puis le dernier levier, il est comportemental. À l'approche d'un feu, les habitants doivent éloigner tout ce qui pourrait s'embraser. On rentre les poubelles, on déplace les voitures. D'ailleurs, vous le voyez, la voiture du voisin, elle n'a pas été déplacée, elle a pris feu, elle a mis en danger la maison. Mais finalement, tout s'est bien fini. Alors, ces enseignements d'une architecture adaptée au feu, évidemment, ils sont clés pour reconstruire Los Angeles. Ça coûte à peu près 10% de plus de protéger ces maisons à la construction. C'est un peu d'argent donc, mais évidemment, le retour sur investissement est clair si ça limite les dégâts pour les prochains épisodes.
Ouais, sans commune mesure. Pour finir, Antoine, on parle régulièrement évidemment des victimes du réchauffement climatique, mais une étude vient d'être publiée sur les victimes du froid en Europe et sur l'évolution à venir des deux tendances.
Oui, car aujourd'hui, en Europe, le froid et les maladies associées tuent plus que la chaleur, 10 fois plus. Mais évidemment, la tendance pourrait s'inverser avec le réchauffement climatique. Des chercheurs ont étudié différents scénarios pour 854 villes en Europe. C'est absolument majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? D'abord, que même dans le scénario optimiste, à 1,7 degré, la tendance va s'inverser. On mourra plus du chaud que du froid en Europe d'ici 2060. Ensuite, malheureusement, le bilan est négatif. Il y aura plus de nouvelles victimes liées à la chaleur que de gens qui éviteront des décès avec le réchauffement dû au froid. Et enfin, le dernier point, c'est la disparité géographique. Si vous allez au nord de l'Europe, en Irlande ou dans les Pays-Baltes, là, le bilan est à peu près neutre. Il est même légèrement positif dans ces endroits où l'hiver est très rigoureux. En revanche, sur le pourtour méditerranéen, mais même en Suisse, en Autriche, en Pologne, le bilan est négatif. On aura plus de victimes en net à cause du réchauffement climatique. L'endroit le plus critique, c'est Malte. Malte, on parle de 268 habitants pour 100 000. 268 morts pour 100 000 habitants, même à cause des vagues de chaleur. C'est à peu près 2 fois plus que ce qu'on va subir dans le sud de la France, pour se donner une idée.
Merci. Merci beaucoup, Antoine Poincaré. Merci aussi à William Baudry, comme toujours, pour l'habillage remarquable de cette émission. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la COC, évidemment, pour sa participation dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on garde contact sur l'appli, notre site internet BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.